Et notre première invitée, Yun Shin, chercheuse à l'Institut pour la Recherche et le Développement. Vous êtes l'une des coordinatrices, je le disais, de ce rapport publié hier par les deux groupements d'experts des Nations Unies sur le climat et sur la biodiversité. Experts qui fait ce constat, il faut traiter ensemble les crises de la biodiversité et du réchauffement climatique dans les politiques menées. Ça paraît évident de le dire, mais c'est un cercle vicieux. L'une de ces crises nourrit l'autre.
Oui, alors un cercle vicieux. En tout cas, il y a des interactions très fortes entre le changement climatique et la biodiversité. Le changement climatique, et ça je pense que maintenant vos auditeurs le savent, le changement climatique affecte négativement la biodiversité et l'ensemble des services écosystémiques. Et de son côté, la biodiversité peut jouer un rôle très important pour la régulation du climat. Donc rien qu'en disant ça, on voit que les deux processus doivent être abordés ensemble.
Et justement, le constat, je cite un passage du texte, c'est que les politiques mises en place jusqu'ici pour tenter d'enrayer la disparition des espèces ou la dégradation des océans d'un côté et la montée des températures de l'autre ont été pensées séparément, un petit peu en silo, et que ça, c'est une erreur.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a un ensemble de mesures qui sont faites pour lutter contre le changement climatique qui vont avoir des conséquences directes sur la biodiversité. Et de l'autre côté de la pièce, c'est que l'ensemble des mesures pour lutter contre la perte de biodiversité peuvent avoir un impact très bénéfique sur la régulation du climat. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que je pense que les gens doivent réaliser, c'est que le changement climatique et la perte de biodiversité ont les mêmes grandes causes de changement, les mêmes grandes causes de dégradation. Ce sont la population démographique humaine, c'est les modes de production et de consommation, ce sont aussi nos systèmes de gouvernance, nos économies, le développement technologique également, mais aussi un ensemble de valeurs qu'on a par rapport à notre environnement. Donc il y a une énorme opportunité en abordant les deux problèmes de front, c'est qu'on peut mobiliser notre énergie, nos finances aussi, nos choix individuels, on peut transformer nos systèmes en ayant un rapport bénéfice-coût qui est très important. On peut faire d'une pierre deux coups.
Il y a par exemple certaines politiques en faveur du climat aujourd'hui qui se révèlent destructrices pour la biodiversité. On peut donner des exemples ?
Alors, destructrice, je n'irai pas jusque-là. Cependant, il y a des grands exemples phares en fait de lutte contre le changement climatique. Il faut faire attention de où est-ce qu'on les implémente, comment on les implémente. Je vais vous donner des exemples qui sont liés par exemple aux bioénergies, pour faire du biocarburant par exemple. Le risque, c'est la monoculture. Le risque, c'est si on met beaucoup d'intrants, si on met beaucoup de pesticides et beaucoup de fertilisants. Le risque, c'est chacune de ces mesures-là qui sont phares, c'est lorsqu'on déploie ces mesures à trop grande échelle. Et qui dit trop grande échelle, ça risque aussi de rentrer en compétition avec d'autres formes de régulation de l'environnement. Mais il n'y a pas que les bioénergies, il n'y a pas que la reforestation qui ne serait pas forcément au bon endroit. Il y a aussi tous les plans de panneaux solaires, mais également de wind farms, excusez-moi, en français.
D'éoliennes, parce que là, c'est les minerais rares qui rentrent dans la production de ces panneaux solaires, de ces éoliennes.
Alors oui, il y a encore une fois une question d'intrants, mais là c'est pas le privilège de ces formes d'énergie renouvelable. Toute forme d'industrie qui utilise des minéraux et des métaux précieux, c'est la même problématique. Il n'y a pas une seule solution phare. Il y a un portefeuille de solutions qui doivent se compléter. Et tout comme les éoliennes et les panneaux solaires, si on les déploie à trop grande échelle, ça peut avoir des effets néfastes sur l'environnement. Alors, il y a des choses qui peuvent être faites pour réguler justement ces effets négatifs. Et on parle aussi beaucoup, pour par exemple les éoliennes, de l'effet sur l'environnement, sur les oiseaux migrateurs, etc. Mais là aussi, de ce côté-là, on progresse beaucoup justement sur, par exemple, la hauteur des pales des éoliennes, oui, sur leur emplacement, etc., etc.
Il faut donc faire attention à l'échelle et aux endroits où on fait les choses, où on met en place ces solutions. Dans ce rapport, il y a aussi beaucoup d'espoir et de solutions, justement. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, demain, concrètement, pour avoir des mesures qui soient efficaces sur les deux tableaux, lutte contre le réchauffement et contre la disparition des espèces?
Alors, je peux vous parler justement de solutions qui mettent en œuvre des solutions basées sur la nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut restaurer des écosystèmes naturels, on peut les gérer de manière plus soutenable, on peut protéger des pans de biodiversité. Pourquoi? Parce que il y a des écosystèmes qui sont très intéressants pour pouvoir capturer du carbone, pour pouvoir le séquestrer.
Par exemple
Les forêts, on sait qu'elles capturent du carbone, mais on oublie aussi souvent des écosystèmes marins. Par exemple, les forêts de mangroves sont extrêmement importantes pour séquestrer le carbone dans les sols, en deçà de toute la flore microbienne qui va dégrader la matière organique. Donc en deçà, on peut séquestrer le carbone pendant des centaines et des milliers d'années. Donc on voit bien que la destruction, par exemple, des mangroves pour des fermes crevettières ou pour d'autres usages peut être extrêmement néfaste, au contraire, à la régulation du climat.
Pour des choses plus près de chez nous, ceux ou celles qui ont un compost et qui nous écoutent, C'est des choses qu'on peut développer avec des circuits de collecte au niveau national, qu'on peut réemployer à beaucoup plus grande échelle que ce qu'on fait aujourd'hui.
Oui, alors tout ce qui est effectivement, ça rentre dans la logique de l'économie circulaire. Hein. Développer les composts, c'est excellent justement pour économiser tous les intrants de nitrogène et d'organique, par exemple l'utilisation excessive de nutriments, de fertilisants pour les sols. On sait très bien que non seulement ça va polluer, ça va aussi augmenter les émissions de gaz à effet de serre, puisqu'il ne faut pas oublier que tout le système agricole de production de nourriture, tout ce système-là, depuis la ferme jusqu'à l'assiette, ça représente quelque chose comme de 1/3 à 1/5 des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial.
Merci beaucoup, Yun Shin, directrice de recherche à l'Institut de la Recherche et du Développement, membre du Comité d'experts des Nations Unies sur la biodiversité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous détailler ce rapport. Bonne journée.
Bonne journée.